chemin de traverse.
Bonjour à tous, je suis Luc Alcazo et bienvenue dans Chemin de traverse. Dans cette émission, nous invitons des associations, des chercheurs ou des personnes comme vous et moi, mais qui proposent des alternatives au statu quo de la société. Ils nous emmènent avec eux dans leur chemin de traverse pour penser autrement le monde dans lequel on vit. Pour ce deuxième épisode, je suis allé à la rencontre d'Alban Galinou, psychanalyste et comportementaliste équin à Saint-Géry. Avec elle, nous parlons de ce qu'elle appelle la médiation équine et de son chemin de traverse, la voie du cheval. Bonne écoute! Alors Alban, la médiation équine, qu'est-ce que c'est ?
La médiation équine, ça se base sur une relation triangulaire entre le patient, le thérapeute et le cheval. Et le cheval va être une sorte de révélateur, on pourrait dire, ou de catalyseur pour permettre au patient d'exprimer ou de contacter ce qu'il a besoin de travailler, ce avec quoi il voudrait travailler, ce sur quoi il veut travailler, ouais.
Et donc à qui elle se destine, qui est-ce qui peut en bénéficier ?
Tout le monde. Toute personne qui se sent attirée par le cheval. Ça peut être même une peur du cheval. J'ai des gens qui viennent parce qu'ils ont peur des chevaux et qui voudraient comprendre pourquoi. C'est un espace aussi qui permet d'accueillir, notamment en ce moment, tous les enfants qui sont... en difficulté avec la société dans laquelle on leur impose de vivre, qui est de plus en plus restrictive, notamment à l'école, mais pas que. Et là, ça permet d'ouvrir un espace en fait, où les règles sont très simples et très concrètes. C'est relié à une expérience directe avec le cheval. Les seules règles qu'il y a, c'est des règles de sécurité qui sont directement compréhensibles par l'enfant, qui font sens. Et du coup, ça permet qu'une fois que ces règles sont intégrées, il puisse exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. Et ça s'adresse aussi à des personnes qui ont envie de travailler sur elles-mêmes, sur leurs émotions notamment. Dès qu'on est avec le cheval, on est en contact avec nos émotions. Donc ça peut être des personnes qui manquent de confiance en elles, ça peut être des chefs d'entreprise aussi qui voudraient travailler sur le rapport à l'autre. Comment mieux faire passer leurs idées, comment optimiser aussi les talents de chacun. Voilà, comment avoir une cohésion d'équipe, enfin bon, ça intéresse en fait pas mal de monde.
Donc les séances peuvent se faire à plusieurs ?
Les séances peuvent se faire à plusieurs.
Et donc vous, depuis combien de temps vous faites ça ? Comment vous en êtes arrivé là ?
Donc officiellement, la Voie du Cheval existe depuis 2019, mais j'ai commencé avant déjà à accompagner des gens sur leur propre parcours. En fait, j'en suis arrivée là parce que moi, les chevaux m'ont aidée beaucoup. Ça a été ma ligne de vie pendant longtemps, ça l'est toujours, et depuis mon enfance. Et en fait, petit à petit, sur mon propre chemin de vie et dans ma vie professionnelle, j'ai affiné un peu qu'est-ce que les chevaux m'avaient apporté et comment je pouvais aussi aider des personnes dans des situations similaires au départ, et voire même maintenant des situations très différentes de ce que moi j' ai pu vivre, mais en quoi les chevaux peuvent les aider. Et donc je me suis vraiment basée sur mon propre parcours initialement.
Vous êtes diplômée en viticulture et œnologie en 2004, mais vous avez aussi eu un diplôme de thérapeute non duel en 2019. Est-ce que pour faire de la médiation équine, il faut un diplôme ? Comment ça se passe ? Comment on devient médiatrice ?
Avant tout, pour être thérapeute, quel que soit, à mon sens en tout cas, quelle que soit la spécialité, il y a vraiment le désir d'aider l'autre, de se mettre à disposition et de prendre soin. Et puis après, évidemment, il y a une formation pour développer des compétences dont on pourrait avoir besoin sur la spécialité qu'on choisit. Donc moi, en l'occurrence, les chevaux font partie de ma vie depuis longtemps. Je me suis formée aux approches éthologiques, enfin ce qu'on appelle en France approche éthologique, donc basée sur l'observation du cheval dans son milieu naturel et aussi dans son interaction avec l'humain. En anglais, on parle de horsemanship, donc la relation homme-animal. Et je me suis formée donc à ces pratiques-là. J'ai mes propres chevaux depuis... j'ai eu mon premier cheval, j'avais 15 ans. Et j'ai pas cessé d'apprendre depuis. Donc voilà, il y a tout ce... Pour faire la médiation équine, il faut bien connaître les chevaux. Et il faut aussi connaître l'humain. Et donc là, moi, je suis psychanalyste, donc pour ça, je me suis formée. J'ai fait bien sûr ma propre psychanalyse, mais je me suis aussi formée. Il y a toute la partie plus théorique, notamment de lecture et d'écriture. Et puis bah, les deux mis côte à côte, donc ce côté comportementaliste où on étudie le comportement du cheval et le côté toutes les profondeurs de la psychologie humaine, c'est ça qui me permet aujourd'hui de proposer de la médiation équine. Mais il commence à y avoir des écoles, mais pour l'instant, il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État.
Comment ça se passe une séance concrètement ? Est-ce qu'il y a une séance type ou est-ce que toutes les séances sont différentes ?
C'est surtout la première séance qui va être une séance type, où en fait, la personne donc, qui vient me voir m'explique d'abord pourquoi elle est là, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qu'elle attend des séances, voilà, qu'elle me présente, quelle est sa problématique du moment. Et ensuite, après ce temps de parole, je donne les quelques règles de sécurité pour que les gens puissent évoluer, ou la personne puisse évoluer au milieu des chevaux en sécurité. Donc soit au milieu des chevaux, soit à distance. Hein. C'est pas, la séance peut se faire en dehors du pré, avec les chevaux qui sont dans le pré et la personne en dehors. Le contact physique n'est pas du tout obligatoire, c'est une possibilité parmi d'autres. Donc une fois qu'il y a ces règles de sécurité, ça passe notamment sur la notion de l'espace personnel. Une fois que ces règles de sécurité sont claires, il y a le moment avec les chevaux, et là, il n'y a pas de séance type, parce que ça va vraiment dépendre de ce qui se passe entre la personne et le cheval. Moi, je suis là pour servir de... J'assure la sécurité de tout le monde, déjà. Je suis la gardienne de l'espace et du temps, quelque part. Et je vais aider la personne à traduire, en fait, ce que le cheval lui renvoie et qu'est-ce qui se passe. J'aide à mettre les mots, en fait, à mettre les mots sur ce qui est en train de se passer. Donc je travaille, en médiation équine, je travaille vraiment avec mes chevaux que je connais bien, on se connaît en dehors des séances. Donc du coup, quand je vois quelque chose, je sais si c'est un comportement du cheval qui est habituel ou si c'est quelque chose de particulier qui peut être en lien avec la personne. Et je vais aider la personne à mettre des mots aussi sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit.
C'est une séance se passe avec un seul cheval ou plusieurs ? Comment vous déterminez avec quel cheval la personne va-t-elle évoluer ?
C'est pas moi qui détermine ça, en fait. La première séance se fait avec tous les chevaux, et en fait le choix se fait entre le cheval et la personne, c'est-à-dire que c'est pas moi qui j'interviens pas à ce niveau-là. Je m'assure simplement que la personne soit en sécurité et que mes chevaux soient en sécurité.
Et comment vous déterminez si le cheval ou la personne est en sécurité? Quels sont les signes qui vous disent que ça va bien se passer?
Comment exprimer ça? C'est vraiment une histoire de distance, en fait, d'espace. C'est-à-dire que si la personne... et puis d'émotion. On pourrait aussi dire ça, ouais. C'est que si la personne est calme, ou que le cheval est calme, ou même si la personne devient fébrile parce qu'elle contacte des émotions particulières, et que mon cheval en face reste... Soit lui, il devient fébrile aussi, et à ce moment-là, je vais faire en sorte qu'il y ait une distance suffisante pour qu'il soit en sécurité... Soit en fait le cheval reste calme et simplement la personne traverse ses émotions et tout se passe bien. Mais faut savoir quand même que les chevaux, globalement, leur premier réflexe, c'est la fuite. Donc quand ils sont pas à l'aise avec une situation, ils vont s'éloigner. C'est pour ça que mes chevaux sont en liberté. Ils sont dans l'espace de travail est grand, c'est un grand pré. Et mes chevaux peuvent s'approcher de la personne ou repartir. Et c'est ça qui garantit vraiment la sécurité des choses, en fait. C'est que le cheval, à moins qu'il soit coincé, soit parce qu'il est tenu en licol ou parce qu'il est dans un endroit trop fermé, où là, il peut devenir agressif ou avoir des réactions explosives. Mais en fait, dans un pré ouvert où il est avec ses copains, où l'espace est grand ouvert et il peut se retirer et qu'il n'y a pas de licol, il n'est pas attaché, il n'y a pas vraiment de risque, quoi.
Il y a toujours un cheval qui vient ?
Majoritairement, oui. Si vraiment il n'y a aucun cheval qui vient, en général, ça ne dure pas. Ça ne dure pas plus de 3 jours. Ça dépend de ce qu'on appelle venir, en fait. Ce n'est pas forcément un contact physique. Les chevaux sont assez subtils, c'est des animaux assez subtils, et ils peuvent... Mais il y en a toujours un qui passe au moins à proximité. Il y a un intérêt, il y a un œil qui se tourne, il y a une oreille qui se tourne, ils viennent voir, et l'air de rien. Mais souvent, il y a quand même un contact physique. C'est-à-dire qu'ils viennent toucher du bout du nez la personne.
Thank you. Et donc vous, pendant la séance, comment vous vous positionnez? Quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes en retrait? Est-ce que vous discutez avec la personne pour la guider?
Ça dépend. ça dépend. Je suis en retrait dans la mesure où je suis en retrait de ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis pas... J'ouvre un espace et après, je crée en fait un contexte pour que les choses qui doivent se passer puissent se passer. Et en ce sens, je reste en retrait. Mais je vais aussi guider la personne. Donc c'est assez subtil. Je peux aussi guider la personne si elle-même ne sait pas par où, par quel bout prendre les choses. Donc à ce moment-là, oui, je peux guider, je peux donner une indication ou donner une piste à suivre éventuellement. Mais la plupart du temps, je reste en retrait et je ne viens qu'en support.
Vous parliez de contact physique, parfois pas, mais est-ce que ça arrive aussi de pouvoir monter le cheval ?
C'est aussi possible, oui. C'est une possibilité. À ce moment-là, le cheval est tenu en main par moi. Et ça peut être utile pour apprivoiser des sensations différentes, pour trouver l'équilibre dans le mouvement aussi. Dans ces cas-là, c'est vraiment à l'arrêt, au pas. C'est vraiment on fait pas d'équitation, quoi.
Au bout de combien de temps, combien de séances faut avant de voir des résultats, des premiers résultats? Est-ce que parfois on ne voit pas de résultats?
Souvent, dès la première séance, ils contactent quelque chose, déjà qui leur donne envie de revenir, puisque la plupart reviennent, en tout cas pendant un certain temps. Et donc il peut y avoir déjà des choses qui bougent, des lignes qui bougent, des choses qui émergent dès la première séance. Et après, tout dépend pourquoi elle vient, en fait. Ça dépend si c'est pour résoudre un problème et elle trouve une réponse dès les premières séances, c'est possible. La plupart du temps, c'est quand même un travail plutôt en profondeur. Et du coup, ça prend plus de temps. Et j'accompagne les gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans.
Qu'est-ce qui fait que le cheval arrive à résoudre ces problèmes-là ?
En fait, le cheval, il résout rien. Hein. C'est pas lui qui résout. Le cheval est un animal particulièrement sensible. C'est-à-dire que dans la nature, c'est une proie. C'est une proie dont le salut est dans la fuite. Donc ça veut dire que ça implique en fait qu'il est en permanence attentif à son environnement et à tout ce qui se passe. Et la moindre modification dans son environnement, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, que ce soit grossier ou subtil, peu importe, en fait, il remarque tout ce qui se passe quelque part. Et il y réagit, ou du moins il y prête attention. Et c'est ça qui fait que, en fait, c'est une sorte de miroir, c'est une sorte de révélateur un peu de ce qui peut nous traverser. Parfois, il y a des choses qui nous traversent dont on se rend pas compte, mais le cheval, lui, il l'a remarqué. Et quand on le connaît bien, moi, je sais pas forcément ce qui se passe dans la personne. Mais je vois qu'il se passe quelque chose parce que mon cheval a réagi. Il a changé d'attitude, il a regardé la personne, il y a eu quelque chose. Donc, je sais pas, moi, ce qu'elle vit, mais je vois qu'elle vit quelque chose. Et parfois, simplement de dire, de ramener la personne vers son intérieur, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de vous en ce moment? Et c'est ça qui, en fait, la personne va revenir, va se tourner vers l'intérieur et va pouvoir observer ce qui se passe. Et c'est ça qui est thérapeutique, en fait.
Et comment le cheval arrive à ressentir ça? À ressentir une émotion, une pensée de la personne?
C'est sa nature, je pense. Il est fait comme ça, il a des antennes hyper fines et déployées dans tous les sens. C'est de l'information, en fait. Une émotion, c'est une information, et c'est une information subtile. Ils savent pas forcément ce qui se passe, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe.
Donc, vous parliez de les laisser en liberté, mais est-ce que vous les préparez d'une manière ou d'une autre et eux, dans tout ça, est-ce que ça peut les affecter de recevoir toutes ces émotions?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, alors en ce qui me concerne, je travaille avec donc mes chevaux que j'ai depuis la plus ancienne Rumba, elle a 19 ans et elle est arrivée, elle avait 18 mois. Donc en fait, c'est notre quotidien ensemble, on partage, ils sont là autour de la maison, on vit beaucoup de choses ensemble en dehors des séances. Et c'est ça qui crée une relation forte entre nous et de confiance. Je pars souvent me balader avec eux, je monte peu à cheval en fait, je suis pas une cavalière extraordinaire, mais j'aime bien aller me balader en forêt avec eux, à pied ou à cheval. Et tout ça, c'est des choses qu'on partage en fait, on partage le quotidien, et cette relation de confiance nous permet d'offrir en fait un cadre, je pense, sécurisé pour les personnes qui viennent. Donc ça, c'est plus pour le côté éducation. L'éducation, en fait, elle est juste inhérente à mon quotidien avec eux. Et oui, le cheval peut être affecté, et c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'il soit en liberté, en troupeau et dans un pré suffisamment grand, même mon espace de travail est grand, pour qu'ils puissent aussi s'éloigner et ne pas être... qu'ils puissent s'éloigner d'une situation où ils ne se sentent pas de gérer ce qui peut se passer. Par exemple, pour donner un exemple concret, j'ai cette jument qui a 19 ans, elle a eu un poulain il y a 8 ans, et quand elle était pleine, elle attendait ce poulain, elle participait pas aux séances. En fait, à chaque fois, je la voyais, elle partait, elle se cachait derrière une haie, et elle attendait là le temps que la séance se fasse, puis elle revenait après, à la fin. Et c'était son choix, elle n'était pas... voilà, elle avait le choix d'être là ou pas.
Donc en fait, ils sont un peu autonomes dans leur, ouais, dans leur manière, ouais, de...
Donc ils ont un espace où eux aussi peuvent s'exprimer. Et c'est aussi ce qu'on offre finalement aux gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils aient un espace où des choses, même les plus enfouies, peuvent s'exprimer. Donc eux-mêmes, ils ont déjà ce droit-là de pouvoir s'exprimer et d'être respectés dans qui ils sont. Et parfois, ça peut arriver qu'ils soient affectés, oui, par des émotions particulières, des gens qui sont arrivés avec quelque chose, je sais pas, qui a troublé en tout cas, ça trouble rarement tout le troupeau, mais ça peut arriver qu'il y ait un cheval qui soit un peu... qui paraisse triste. Voilà, ça, ce sont mes mots, évidemment, parce que je suis pas dans leur tête, mais qui puisse paraître triste après une séance. Mais je pense que du fait qu'ils vivent en troupeau, qu'ils vivent une vie de cheval, en fait, en dehors de ça, dans des grands prés, ça permet qu'ils se... Quelque part, Et puis bon, il faut pas 15 séances dans la journée, hein, donc il faut même pas 15 séances dans la semaine, donc c'est quand même un rythme aussi qui leur permet, je pense, de digérer tout ce qui se passe, quoi.
Vous avez une anecdote à raconter, ou plusieurs même, de quelque chose que vous avez vu, dont vous avez été témoin, qui vous paraît représentatif de ce que c'est la médiation équine?
Ce qui me touche souvent, c'est vraiment le... Il y a une sorte de... Il y a quelque chose d'un peu magique, en fait, à un moment donné. Magique parce qu'en fait, on ne le perçoit pas avec nos sens... Et où, qui moi m'émeut toujours quand je vois la personne en fait qui commence à se détendre, à s'ouvrir, et où là le cheval vient poser son nez souvent sur le bras ou même sur le cœur, mais c'est très délicat, c'est très fin, et y a une détente qui est palpable quasiment de tout le monde, quoi. Et les chevaux respirent, la personne respire, parfois il y a des larmes, pas toujours, mais ça arrive souvent. Non, chez les humains, les chevaux, on dit que les animaux pleurent pas, je crois que c'est vrai. Nos larmes sont leur bénédiction, en fait. Et il y a quelque chose de vraiment très fin et très subtil, et c'est toujours très beau, je trouve, quand un peu comme si chacun se mettait au diapason de l'autre. Il y a quelque chose un petit peu... Il y a une sorte de connexion qui se fait très fine, et où on n'est plus vraiment un humain. On est évidemment un humain, et il reste un cheval. Et de ces deux entités, il y a un espace au milieu qui se crée, qui est... Vraiment une connexion très fine entre les deux, quoi. Et ça, c'est très beau, et ça arrive assez fréquemment, mais à chaque fois, c'est toujours aussi émouvant, je trouve.
Et du coup, vous, qu'est-ce que vous en tirez personnellement de votre métier, qui est peut-être aussi votre passion, du coup ?
Bah, beaucoup de joie, quand je vois des personnes qui s'épanouissent au fur et à mesure des séances et qui contactent des parts d'elles-mêmes qu'elles connaissaient pas, qu'elles soupçonnaient pas, et qui se déploient et qui prennent toute leur ampleur. Je me sens vraiment honorée de pouvoir assister à ça, je trouve ça beau. Et puis j'ai aussi beaucoup de gratitude pour les chevaux, pour ce qu'ils m'ont offert à moi, et puis pour ce que je vois qu'ils offrent aussi à nous, humains, et au monde en général.
Ils vous ont offert quoi, les chevaux ?
D'être toujours là, d'être en vie, quelque part, de continuer à avancer. Je trouve qu'ils apportent vraiment cette magie. Ouais. Ce côté, peut-être pour être moins mélodramatique, c'est ce côté magique. Il y a quelque chose de très fin et de très subtil, et ça embellit les journées, en fait, quand on est auprès d'eux.
Merci, Alban.
Chemin de traverse.
Pour réécouter le podcast, rendez-vous sur le site internet de RLP.